Finalement, à l'ombre du vieil arbre Bodhi, il triomphe de Mara. Siddhartha traversa la rivière et se rendit à un grand figuier, un ficus religiosa, encore appelé Pipala, qui fut appelé plus tard arbre beau, arbre Bodhi ou arbre de la Bodhi, c'est-à-dire arbre de l'éveil. Avec quelques fagots d'herbe qu'un paysan du coin lui donna, il se prépara un coussin et s'assit face à l'est. Il s'installa avec la ferme détermination de ne pas se lever avant d'avoir atteint l'éveil complet et total. Les textes bouddhiques classiques décrivent ce qui se passa alors avec une excitation à peine contenue. Ils racontent que le monde retint son souffle alors que le moment qui transformerait l'histoire approchait. Siddhartha était assis sous le pipala et les esprits de l'air se réjouissaient. Toujours selon ces textes, tout le monde n'exultait pas toutefois. Mara le tentateur, personnification de tous les maux qui affligent l'esprit, était terrifié. Il savait que si Siddhartha réussissait à obtenir l'éveil, l'emprise de l'illusion sur le monde serait menacée. Les textes traditionnels se servent de métaphores spectaculaires pour décrire les événements qui suivirent. Alors que Siddhartha était assis en méditant, les fils et les filles de Mara, c'est-à-dire des hordes d'interférences démoniaques, se lancèrent à l'attaque pour tenter de déranger sa concentration. De violentes tempêtes de haine éclatèrent, mais en dessous de l'arbre Bodhi, tout resta calme. Les forces démoniaques lui décochèrent un déluge de projectiles, mais ceux-ci se transformèrent en pétales de fleurs qui tombèrent sans le moindre danger aux pieds de Siddhartha, plus que jamais déterminé. Des visions des plaisirs charnels les plus torrides apparurent alors à Siddhartha, avec aussi des images de son épouse et de son fils. Pourtant, rien ne put interrompre sa concentration. Il ne restait plus qu'une seule arme à Mara, les graines du doute. Renvoyant ses légions, Mara apparut devant Siddhartha et s'adressa directement à lui. « Montre-moi un seul témoin qui pourra confirmer que tu mérites de réussir là où tous les autres ont échoué », exigea-t-il d'un ton moqueur. Siddhartha répondit sans mot dire. Il étendit simplement sa main droite et toucha la terre, parce que la terre elle-même était témoin que Siddhartha avait mis en pratique les vertus pendant d'innombrables vies, qui allait maintenant permettre son atteinte de l'état de Bouddha. Mara, désormais vaincu, disparut comme un mauvais rêve. C'était la nuit de la pleine lune, au cours du 4e mois indien, en mai ou juin de notre calendrier. Alors que la lune se levait dans le ciel, la méditation de Siddhartha devint plus profonde. Le feu de sa sagesse grandissante détruisit tout ce qui restait de couches d'ignorance obscurcissant encore son esprit. Il perçut directement et sans le moindre doute le flux de ses vies antérieures et comprit exactement comment les actions du passé avaient mené au résultat présent. Il vit comment l'attachement, qui est la source de toute souffrance, prend sa racine dans l'ignorance. Alors que sa sagesse se débarrassait de couches d'ignorance de plus en plus subtiles, son esprit devint de plus en plus lumineux. Finalement, alors que la lune se couchait et que le soleil du jour suivant se levait, Siddhartha atteignit le but, l'éveil total et complet. Dès lors, il ne fut plus un simple prince, mais un être éveillé, un Bouddha.
La signification du renoncement. Les longs cheveux, c'était l'un des principaux signes de la royauté indienne. Et la décision de Siddhartha de les couper symbolisait sa détermination de changer radicalement de mode de vie et de se consacrer entièrement à la quête spirituelle. Aujourd'hui encore, la cérémonie marquant la décision formelle d'adoption du mode de vie bouddhiste inclut souvent qu'on coupe une boucle des cheveux de la personne concernée pour rappeler le grand renoncement du Bouddha. Si vous décidez vous-même d'entrer dans les ordres comme moine ou comme nonne, donc astreint ou astreinte au célibat, Vous devrez vous faire raser entièrement la tête pour signaler que vous avez complètement renoncé à la vie mariée d'un ou d'une laïque. Toutefois, le renoncement n'est pas vraiment affaire de savoir si oui ou non vous vous faites couper les cheveux ou si vous modifiez d'une autre manière votre apparence. Il ne signifie pas non plus que vous devrez nécessairement abandonner toutes les autres choses que vous aimez. Si vous aimez aller au cinéma ou regarder le foot à la télé par exemple, vous n'aurez pas à abandonner ces plaisirs pour devenir bouddhiste. Ça devrait étonner certains, parce que nous entendons parfois des gens dire « je pensais que les bouddhistes devaient renoncer à tout cela ». Finalement, le renoncement ne signifie pas du tout qu'on se refuse le plaisir ou la joie de profiter de quelque chose. En fait, c'est plutôt le contraire. Le véritable sens du renoncement, c'est la décision d'abandonner la souffrance. La cause de la souffrance réside dans l'insatisfaction et l'attachement, et c'est l'attachement qu'il faut abandonner. Si vous pouvez profiter de quelque chose sans vous y attacher, sans laisser cette chose devenir un obstacle à votre progrès spirituel ou une perte de votre temps et de votre énergie, alors il n'est point nécessaire de l'abandonner.